La question que je me suis posée au départ, donc, c'était vraiment de me demander si les politiques qui étaient mises en place pour développer l'usage du vélo utilitaire, donc si ces politiques-là, elles allaient vraiment avoir un impact sur les pratiques, c'est-à-dire pas seulement l'usage du vélo, le fait de se déplacer à vélo, mais plus largement l'intégration du vélo dans l'organisation de la vie quotidienne.
Nouveau Territoire, le podcast, pour comprendre ce qui se passe au cœur des territoires.
Je m'appelle Jean Didier et je serai votre guide. Je vais vous accompagner pour explorer toutes les facettes des nouveaux territoires qui se dessinent sous nos yeux. Transition écologique et numérique, bouleversement sanitaire, surchauffe climatique. Nos repères, nos habitudes et nos quotidiens sont bousculés. Comment allons-nous habiter, construire, nous déplacer? Quel nouveau cadre pour mieux produire, cultiver, nous nourrir ou nous former? Ce podcast a vocation à définir ces thématiques et à explorer toutes les dynamiques qui foisonnent aujourd'hui dans nos territoires. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Nouveau Territoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manon Eskenazi. Bonjour Manon.
Bonjour Jean.
Nous allons donc parler avec toi dans cet épisode de vélo. Tu as soutenu le 19 janvier 2022 une thèse en urbanisme et aménagement au Lab Urba à l'Université Paris-Est sur les politiques et pratiques comparées du vélo à Lyon et à Hambourg. Une thèse dirigée par Marie-Hélène Massot. Alors ma première question est toute simple. Est-ce qu'il faut pratiquer le vélo pour faire une thèse sur la bécane, une thèse de 5 ans?
Alors déjà, merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Non, on n'est pas obligé de faire du vélo pour s'intéresser à ce mode de déplacement. Moi, quand j'ai commencé ma thèse, je ne faisais pas de vélo. J'avais essayé en Master 2, j'avais acheté un vélo qui ne me convenait pas du tout. J'ai abandonné au bout de 3 mois. Et en fait, je me suis remise à faire du vélo pendant ma thèse à Hambourg pour essayer en fait de comprendre comment les gens se déplaçaient à vélo. Et ben, je m'y suis mise. Et aujourd'hui, j'en fais, mais j'ai pas commencé ma thèse en faisant.
Alors, qu'est-ce qui t'a donc motivé à choisir un sujet sur le vélo ?
Je me suis intéressée quand j'étais étudiante en master 1. À la mobilité des piétons à Paris. Et en fait, ça m'intéressait de regarder un peu comment les gens se déplaçaient en ville, mais ceux qui étaient un peu les marginaux de la politique de mobilité, puisque finalement, les politiques de mobilité s'intéressaient assez peu aux piétons, même s'il y en a de plus en plus de stratégies qui s'intéressent au vélo et aux piétons. Ils étaient quand même un petit peu mis de côté, notamment dans l'aménagement urbain. Hein. On voit bien sur les trottoirs qu'il reste un peu... très encombré, donc le déplacement à pied n'était pas facilité. Et donc après m'être intéressée aux piétons, je me suis intéressée au vélo, notamment parce que j'avais des amis qui en faisaient et que petit à petit, je me suis demandé finalement si les politiques qui étaient mises en place pour développer le vélo allaient vraiment agir sur les pratiques.
Le vélo est aujourd'hui à la mode. 2021 est une année sans précédent pour le marché du vélo. Est-ce qu'on peut encore dire que le vélo reste un mode de transport marginal, justement ?
On peut le dire pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il reste marginal dans les pratiques de mobilité. Hein. En France, le vélo stagne à 2-3% à l'échelle nationale. Il arrive dans des villes comme Strasbourg à un peu plus de à environ 15% de part modale. Mais dans la plupart des villes et des territoires, il reste quand même marginal dans les pratiques de mobilité. À Lyon, que j'ai étudié, on ne dépassait pas 2% dans la ville-centre et 1% de part modale. Donc, part modale, c'est la part du vélo dans l'ensemble des déplacements qui sont réalisés un jour donné. Et donc là, il stagnait à 1% sur le Grand Lyon. Donc, il est marginal dans les pratiques, il reste aussi marginal dans les politiques et dans l'aménagement du territoire. On le voit bien qu'en fait, le vélo, il reste quand même à la marge de la voirie. Il y a la route pour les voitures qui prend beaucoup d'espace, il y a le trottoir, et puis le vélo, il se retrouve encore souvent là où il lui reste un peu de place.
Il reste un petit peu l'apanage des grandes villes, c'est ça, le vélo?
Quand j'ai fait ma thèse, ce que je m'étais rendu compte, c'était qu'effectivement... les politiques se représentaient le vélo comme un mode qui était très, très fait pour le centre-ville. Et que dès qu'on sortait un peu du centre, dès qu'on allait en banlieue, dès qu'on allait dans le périurbain, et ben, tout de suite, on avait l'impression que c'était un mode qui était plus fait pour ces territoires-là. Et ce n'est pas le cas. On voit aujourd'hui des gens qui habitent dans le périurbain, qui veulent faire du vélo, qui en font. Et donc aujourd'hui, il faut effectivement commencer à véhiculer cette image d'un vélo qui serait fait pour tous les territoires, du moment où il y a effectivement... les gens ont la possibilité d'en faire, et d'en faire en toute sécurité.
Alors, en lisant ta thèse, donc, tu dis que c'est dans les années 90 qu'on constate le retour du vélo en ville avec le développement de la mobilité durable. Est-ce à partir de cette époque qu'on intègre le vélo dans la politique globale des déplacements urbains ?
En France, oui. En fait, on peut observer deux périodes différentes de développement du vélo. Hein. En fait, si on revient un peu en arrière, le vélo, c'est un mode de déplacement qui existe depuis le 19e siècle hein, et qui a été très populaire, notamment dans les milieux ouvriers, dans les villes européennes, à première moitié du 20e siècle. Il a un peu, l'usage du vélo a périclité après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec le développement de l'automobile et le développement d'infrastructures routières aussi qui ont supporté l'usage de l'automobile. Et en fait, on peut observer deux tendances, d'une part, deux dynamiques. D'une part, dans les Pays-Bas et au Danemark, où il y a eu un premier retour et intérêt, pour, on va dire, plutôt politique pour le vélo dans les années 70, à la suite de la crise pétrolière. Et ensuite, dans d'autres pays, comme la France, et ça arrivait plus tard, ça arrivait dans les années 90, où effectivement, on observe les premiers plans, enfin, la prise en compte politique du vélo dans les grandes villes, notamment. À travers le développement de plans de déplacement urbain qui intégraient le vélo et des premiers schémas directeurs vélo.
Aujourd'hui, les élus locaux donc, mettent en place des politiques donc, pour favoriser le vélo. Mais je me suis posé la question en lisant ta thèse, est-ce que ces politiques du vélo se font avec quel objectif finalement ? Est-ce que se font dans le but de réduire la place d'automobile ou pour le confort du cycliste ?
C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, en fait, le vélo, il est souvent vu comme une alternative à la voiture. Mais pas pour réduire forcément la place de la voiture en ville. Hein. Ça reste un objectif qui est très complexe à formuler pour les collectivités locales, mais plutôt comme une alternative à l'usage. Et donc, les politiques qui sont menées, alors quand on parle de politique du vélo, ça peut être développer de l'aménagement cyclable, ça peut être développer des services vélos, comme les vélos en libre-service, ou la location de vélos longue durée. C'est développer du stationnement. Et c'est aussi, par exemple, mettre en place des aides à l'achat. Donc là, on n'est pas que sur le confort du cycliste, on est aussi sur amener des gens qui ne faisaient pas de vélo à acheter et à se mettre au vélo. Pour autant, le vélo, il est vraiment pensé comme une alternative à la voiture sur certains types de déplacements.
Mais est-ce que ces politiques, finalement, s'adressent à tout le monde ? Est-ce qu'on est dans une politique du vélo pour tous ?
C'est un peu ce que disent les acteurs politiques. Dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. C'est pas vraiment le cas pour plusieurs raisons. D'une part, parce que les instruments qui sont mis en place, les outils des politiques publiques qui sont mis en place, ils ne peuvent pas avoir une portée universelle. Typiquement, les aménagements cyclables, en fonction de la localisation des aménagements cyclables, on va toucher un certain type de public et pas un autre. C'est pareil pour le stationnement. Moi, ce que j'ai montré dans ma thèse, c'est notamment qu'en fait, à travers ces outils et la répartition spatiale de ces outils des politiques vélos, en fait, les acteurs politiques définissent ce que j'ai appelé un territoire politique du vélo, c'est-à-dire un espace de pertinence du vélo dans lequel on va essayer de développer le vélo. Et donc, si on n'est pas dans cet espace de pertinence, il y a plein de choses qui ne vont pas être faites. Et ça se voit, par exemple, avec le vélo en libre-service, où aujourd'hui, le vélo en libre-service, c'est un service qui est déployé majoritairement sur les centres urbains. Il y a certaines parties des agglomérations qui ne sont pas touchées. Et par exemple, dans le Grand Lyon, on voit bien qu'il y a un certain nombre de banlieues, notamment banlieues populaires, qui ne sont pas desservies par le système de vélo en libre-service. Donc, en fonction de la manière dont ces instruments sont déployés, on ne touche pas tout le monde. Et c'est ça qu'il faut justement chercher à corriger.
Venons-en à ta thèse, donc, où tu as cherché à analyser donc, les politiques du vélo à travers les pratiques. C'est un sujet qui a été peu étudié, ça ? C'est vraiment une originalité dans ton travail ?
Sous cet angle-là, oui. Alors, les politiques du vélo sont de plus en plus étudiées. Les pratiques du vélo sont aussi de plus en plus étudiées. Par contre, faire le lien justement entre politique et pratique et analyser un petit peu la construction des politiques du vélo sous l'angle de cette pratique, c'est beaucoup moins fait. C'est beaucoup moins fait parce que c'est pas facile à mettre en place. Hein. C'est analyser deux objets différents, analyser les acteurs politiques, analyser les outils de la politique publique, et de l'autre côté, aller regarder vraiment enquêter les pratiques, donc les individus, la manière dont ils utilisent le vélo, la manière dont ils se déplacent en ville, et aussi étudier leur mode de vie, c'est-à-dire l'organisation de leur vie quotidienne, de leurs activités. Un peu tout ça. Donc lier ces deux objets-là, c'est pas si évident que ça, et c'est vrai que c'était un peu l'angle original de la thèse que de les amener ensemble.
Mais pourquoi affirmes-tu dans ta thèse que la corrélation entre le déploiement de l'aménagement cyclable et le développement des pratiques fait aujourd'hui débat dans le milieu scientifique ?
Eh bien, parce qu'on a deux approches, en fait, dans le milieu scientifique sur le vélo. Il y a une approche un peu, moi, ce que j'appelle positive des politiques du vélo. C'est tout un courant de chercheurs qui affirment que, oui, les politiques qui sont mises en place pour développer l'usage du vélo ont un vrai impact sur l'usage. Et en fait, si l'usage augmente, c'est parce qu'il y a des politiques, et notamment de l'infrastructure cyclable, qui sont mises en place. Il y a tout un autre courant qui va au contraire relativiser l'impact de ces politiques, et notamment l'impact de l'aménagement cyclable sur le développement du vélo dans un territoire, en expliquant qu'il y a d'autres facteurs qui vont jouer, notamment pour certains auteurs, des facteurs culturels. Alors c'est un peu difficile de parler de culture quand on parle du vélo, parce qu'on a tendance à nous opposer un peu l'argument de si en France on fait pas autant de vélo, c'est parce qu'on n'a pas la culture des Pays-Bas. Mais intégrer les dimensions culturelles, c'est pas que rejeter tout, enfin voilà, dire qu'on fait pas du vélo parce que c'est pas dans notre culture. C'est plutôt dire que finalement, au-delà de la politique, il y a des facteurs qui sont liés à l'organisation de la ville, à l'organisation de la société, à l'organisation des modes de vie, qui vont jouer sur le développement du vélo.
Et donc, pour étudier ces liens entre politique et pratique du vélo, tu as entrepris un travail de comparaison entre deux villes, Lyon et Hambourg. Je devrais plutôt dire métropole, en fait. Pourquoi le choix de ces deux villes ? Tu aurais pu choisir d'autres villes, pourquoi pas Paris, Amsterdam ?
Alors, je ne voulais pas travailler sur des capitales. J'avais envie de travailler sur des villes importantes qui mettaient en place des politiques vélo, mais qui n'étaient pas des villes modèles. Et notamment, Paris est en train de devenir, sur la partie politique, hein, je ne dis pas sur la partie pratique, et un peu une référence à l'international. Et je ne voulais pas travailler sur les Pays-Bas parce que, justement, c'était un peu trop les villes modèles. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi de comprendre comment ces politiques se mettaient en place dans des environnements qui étaient encore très automobiles. Et la métropole du Grand Lyon et la métropole de Hambourg, donc en Allemagne, ces deux métropoles qui ont justement des caractéristiques similaires à ce niveau-là, dans le sens où ce sont deux métropoles qui sont encore très automobiles, hein, qui ont une architecture très automobile, une culture très automobile, et qui pour autant ont mis en place à peu près à la même époque des politiques dédiées au vélo, pour augmenter l'usage du vélo, et qui ont aussi des taux de pratique très différents. On est à 2% à peu près dans le Grand Lyon, on est aujourd'hui à 15% à Hambourg, et on était à 9% en 2002. Donc on est sur des dynamiques très différentes, et c'est un peu pour comprendre pourquoi il y avait des dynamiques très différentes et l'impact des politiques sur ces dynamiques que j'ai choisi ces deux terrains.
Pour ce travail de comparaison, tu as mis en place, c'est ça, une enquête qualitative par entretien semi-directif auprès des acteurs et des cyclistes, c'est ça ? Combien de personnes ont été interrogées ? Ça a été un vaste travail.
Ça a été un vaste travail. J'ai interrogé plus de 70 personnes. L'idée, c'était d'avoir à peu près le même nombre d'interviewés dans chaque ville. Donc, j'ai interrogé à chaque fois entre 10 et 12 acteurs publics. Alors, acteurs publics au sens large, c'était à la fois des techniciens, des élus, quand j'avais la chance de pouvoir rencontrer un élu, mais aussi des acteurs du monde associatif local, voire national en France. Et ensuite, j'ai interrogé des cyclistes dans chaque ville, donc à peu près 25-27 cyclistes dans chaque ville.
Et tu as aussi vécu dans ces deux villes, c'était un parti pris ?
Oui, c'était un parti pris. Alors, j'ai passé 6 mois à Hambourg, puis après 1 an à Lyon. C'était un parti pris pour justement aussi comprendre comment la ville était faite, comprendre comment avoir vraiment un regard plus enrichie sur les modes de vie et aussi pour pouvoir faire de l'observation sur place, c'est-à-dire vraiment observer à certains endroits comment les gens se déplaçaient, comment les gens utilisaient les aménagements cyclables et de pouvoir faire ce travail d'observation un peu sur le temps long.
Donc effectivement, tu as commencé donc ton travail en t'attachant sur l'aménagement des pistes cyclables et de ce qui se passait dans la rue.
C'est ça. En fait, je suis partie de l'aménagement cyclable avec pour une raison très simple, c'est que c'était ça s'est révélé être finalement l'interface entre les politiques et les pratiques. C'est ce que les cyclistes et les associations cyclistes vont revendiquer, c'est-à-dire des aménagements cyclables pour faire la pratique. Et c'est l'outil principal des politiques publiques. Pour autant, ce que j'ai pu montrer dans ma thèse, c'est que l'aménagement cyclable, il ne fait pas tout. Il ne fait pas toutes les politiques et il n'est pas la raison d'exister des pratiques du vélo. Mais ça a été le point de départ justement pour après élargir la réflexion à l'ensemble des éléments qui constituent les pratiques du vélo.
Venons-en donc précisément aux conclusions, aux enseignements que tu tires de ton travail comparatif. Tout d'abord, ce qui émerge très fortement, c'est une pratique du vélo dès le plus jeune âge à Hambourg, contrairement au Grand Lyon.
C'est ça. Ce que j'ai pu montrer, c'est que, et ce qui expliquait aussi qu'aujourd'hui, on avait des pratiques très différentes à Hambourg et dans le Grand Lyon, c'est que la pratique du vélo, elle se fait dès le plus jeune âge à Hambourg. J'avais regardé à partir des enquêtes ménages, donc qui renseignent un peu sur les pratiques de mobilité, le fait qu'il y avait plus de 70%, plus de 70% des Hambourgeois de 14 à 17 ans qui faisaient du vélo quotidiennement. Ils étaient 17% dans le Grand Lyon. On est vraiment sur des taux d'usage qui sont très, très différents. Et donc, une insertion dans les pratiques très, très différente dès le plus jeune âge. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, plus on est socialisé tôt à un mode de déplacement, notamment comme le vélo, eh ben, plus on a de chances d'en faire à l'âge adulte et donc aussi de transmettre après cette pratique à ses enfants.
Alors, il y a un autre aspect, je trouve, qui est intéressant dans ton travail, c'est le comportement des cyclistes par rapport aux aménagements et aux règles. Et tu dis que ce n'est pas que culturel, justement.
Cette partie sur les aménagements, c'était intéressant parce que c'était vraiment montrer que finalement, un aménagement qui peut être assez similaire en France et en Allemagne ne va pas générer les mêmes usages. Alors, ne va pas générer les mêmes usages selon les catégories de cyclistes. Hein. On voit bien qu'il y a des cyclistes qui, par exemple, préfèrent ne pas utiliser les aménagements cyclables séparés et préfèrent rouler avec les voitures pour des raisons de sécurité où ils se sentent plus en sécurité finalement quand ils se sont vus par les automobilistes et d'autres qui vont se sentir plus en sécurité quand ils sont complètement séparés de la route. Mais il y a aussi des différences finalement entre Hambourg et le Grand Lyon, entre les cyclistes hambourgeois et les cyclistes grand-lyonnais, sur la manière dont ils vont utiliser ces aménagements et surtout dans la manière dont ils vont se comporter par rapport aux règles. Où ce que j'ai pu observer, c'est que finalement les cyclistes hambourgeois avaient une plus grande tendance à respecter par exemple les feux rouges. Peut-être une dimension de respect des règles plus importante là-bas, mais c'était aussi très fortement lié à la manière dont était fait l'aménagement urbain. Dans le sens où griller un feu rouge à Hambourg, eh ben, c'est risquer quand même vachement plus sa vie que quand on grille un feu rouge à Lyon. Dans le sens où les feux rouges à Hambourg sont sur des axes particulièrement passants, et donc si on grille le feu rouge, eh ben, on risque de se faire tamponner par la voiture qui arrive à droite. À Lyon, il y a beaucoup plus de feux rouges à des endroits où finalement on pourrait ne presque pas en mettre. Et donc, griller le feu rouge, il y a peu de risques de se prendre une voiture parce qu'il y a peu de voitures qui arrivent de chaque côté. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ces différences d'usage de l'aménagement et de comportement face à ces règles, elles entraînent aussi une réaction politique différente. Donc en France, on a instauré en 2012 ce qu'on appelle le panneau M12, qui est un petit panneau en triangle avec un vélo et soit une flèche qui va tout droit, soit une flèche qui va à droite, qui permet aux cyclistes de pouvoir passer au feu rouge s'il n'y a pas de voiture qui arrive ou pas de piéton. Une innovation qui n'existe pas à Hambourg. Donc c'est vraiment aussi intéressant de voir que ces qu'on pourrait appeler des mésusages de l'aménagement, vont entraîner une adaptation du code de la route et une adaptation de la législation pour justement les légaliser.
Hambourg et le Grand Lyon possèdent des systèmes de vélos libre-service. Est-ce qu'il y a des différences dans l'organisation de ces systèmes ? À te lire, finalement, ces vélos libre-service ne contribuent pas tant que ça au développement de la pratique du vélo ?
En fait, le vélo en libre-service a eu un rôle très différent dans la politique cyclable de Hambourg et dans celle du Grand Lyon. Le vélo en libre-service, donc le service Vélov, a vraiment été un support de la politique publique et une vitrine aussi très forte. Il a été instauré en 2005, donc c'était un des premiers services de vélo en libre-service à échelle métropolitaine. Il y en avait d'autres qui ont existé en France avant, celui de Rennes, celui de La Rochelle, mais c'était le premier grande échelle, qui a d'ailleurs entraîné par la suite celui de Paris. Et il a vraiment servi de vitrine et aussi de support à un nouvel usage. Il a accompagné, on va dire, plutôt cet usage, puisque finalement, il y avait déjà une croissance de l'usage du vélo, mais ça a quand même été un élément très, très important de la politique vélo. À Hambourg, il est arrivé beaucoup plus tard, en fait. Il est arrivé en 2010. Et en 2010, il n'était pas là pour entraîner une nouvelle pratique. Il était plutôt là pour venir soutenir une pratique qui était déjà présente, déjà existante. Et donc, dans son dispositif, il n'est pas venu pour finalement initier de nouveaux usages, mais plutôt pour permettre une multimodalité accrue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vélo en libre-service à Hambourg, il est très utilisé en complément d'une pratique du vélo personnel. Par exemple, quand on ne veut pas prendre son vélo pour aller en boîte et qu'on a peur de se le faire voler, on prend le vélo en libre-service.
On le constate, les élus doivent constamment arbitrer entre cohabitation et séparation des modes de transport. Il n'est pas toujours simple d'avoir des aménagements adaptés dans des espaces urbains denses aux rues étroites. Qu'en est-il à Lyon et Hambourg ?
Ça reste un vrai problème. Et à Lyon notamment, on a quand même un réseau de rues dans le centre-ville qui est très étroit. On est dans du centre historique qui fait que la cohabitation, on n'a pas la place en fait, pour faire des aménagements séparés. Et là, c'est intéressant parce que finalement, on voit qu'il y a deux paradigmes techniques qui divergent, c'est-à-dire qu'on a des cyclistes et des associations qui aimeraient des aménagements séparés. Pour plus de sécurité, il y a une vraie revendication d'aménagements séparés. Pour autant, on voit bien que dans les paradigmes techniques des acteurs métropolitains, la cohabitation vélo-voiture et la mixité des modes est presque privilégiée là où c'est possible. C'est-à-dire qu'on ne va quand même pas mettre une bande cyclable quand on a un axe à 50 km/h ou 70 km/h. Mais c'est quand même deux revendications différentes. Et à Hambourg, il y a eu des aménagements historiques qui ont été construits dans les années 60-70 sur les trottoirs, qui sont aujourd'hui dominants dans le sens où ça reste quand même la majorité du réseau. Mais ils n'ont pas été construits dans un but de politique cyclable, dans le sens pour développer l'usage du vélo. Ils ont vraiment été construits à l'époque pour écarter les vélos de la chaussée. Et donc c'est intéressant de voir que ces aménagements qui aujourd'hui ne sont pas du tout qualitatifs, qui vont à l'encontre des référentiels d'aménagement cyclable qu'on peut voir aujourd'hui et qui sont promus aujourd'hui, finalement, ces aménagements-là, ils sont toujours existants, ils sont toujours présents et ils sont très appréciés par un certain nombre de cyclistes et notamment de nouveaux cyclistes. Donc on voit qu'il y a un peu un clash finalement entre ce qu'aimeraient les usagers et ce que préfèrent les usagers et puis les référentiels des aménageurs qui, eux, vont tendre vers plus de mixité entre vélo et voiture.
Concernant la conclusion de ta thèse, donc en fait, on constate que les politiques menées en matière de développement de l'infrastructure cyclable n'influencent pas autant que ça la pratique du vélo.
Je dirais qu'elles sont très importantes, dans le sens où il faut développer des politiques cyclables pour montrer qu'il y a des choses qui sont faites et qu'il y a une place qui est donnée au vélo dans le système de mobilité. Et ça, c'est très important pour agir sur les représentations du vélo. Pour autant, moi, ce que j'ai pu observer, c'est que ce n'était pas un levier. Ce n'est pas parce qu'il y a des aménagements cyclables que les gens vont se mettre à faire du vélo. Et que les raisons pour développer la pratique du vélo, il faut regarder beaucoup plus largement que juste l'aménagement cyclable. Il faut agir sur l'accès au vélo. Donc des politiques commencent à le faire. Il y a des aides à l'achat qui sont mises en place depuis plus de 10 ans, mais des aides à l'achat de vélos classiques, j'ai envie de dire, c'est assez récent, c'est notamment depuis la crise. Favoriser l'accès au vélo, c'est important. Favoriser le stationnement, c'est important. Et faire une politique cyclable qui est basée uniquement sur l'infrastructure, c'est agir sur une toute petite partie de la pratique et ça ne suffira pas.
Est-ce qu'il y a une ville qui est modèle, selon toi, justement, dans les politiques et qui favorise réellement une pratique?
On cite beaucoup les villes néerlandaises, hein, Amsterdam et d'autres plus petites villes comme Eindhoven, par exemple. En Allemagne, une ville qui a fait beaucoup pour le développement du vélo et très tôt, c'est Brême. Et plus largement que le vélo, hein, c'est vraiment développer un système de mobilité qui soit basé sur les modes actifs, qui soit basé sur le transport public. Donc ça, ce sont des villes qui sont intéressantes à regarder. Après, c'est des contextes... On ne peut pas prendre ce qui se fait là-bas et le répliquer en France. Ça ne marcherait pas. Il faut partir de ce qu'on a, nous, en France, et justement essayer de voir les spécificités et ce qu'on peut importer. Mais je pense que ce sont des villes qui sont intéressantes justement parce qu'elles ont mis en place cette démarche-là il y a déjà longtemps et que du coup elles commencent à avoir une vraie expertise sur ces sujets-là.
Oui, tu m'as parlé de Brême et de Fribourg aussi, hein, c'est ça, où il y a une interaction entre l'urbanisme et le transport, c'est ça?
C'est ça. Moi, ce que je pense encore, hein, c'est qu'il y a un cruel manque en France, effectivement, d'interaction, de réflexion globale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme et le transport. Où en fait, aujourd'hui, cette interaction, elle est très faite par rapport à l'automobile, par rapport au transport public, mais elle intègre très peu les modes actifs. Et peut-être que la prochaine étape, finalement, de cette interaction urbanisme-transport, c'est de penser un urbanisme et un aménagement du territoire, une répartition des activités sur le territoire, notamment, hein, qui soit aussi, on va dire, qui prenne en compte les modes actifs, notamment le vélo, et voilà, d'avoir une espèce de système un peu global, ce qui est quand même pas évident, finalement.
À Paris, on a pu constater ces dernières années donc un développement des pistes cyclables. Est-ce que pour autant on constate une croissance de l'usage ?
Oui, on observe une croissance assez forte de l'usage à Paris, qui, à mon avis, alors on peut être imputé en partie à la politique qui est menée, mais pas que. Là, on a quand même bien vu qu'avec les grèves de décembre 2020, puis le déconfinement, enfin la crise sanitaire et la sortie de crise sanitaire, on avait vraiment eu une augmentation forte de l'usage. Et donc, la politique cyclable, elle est là pour accompagner, on va dire, cette croissance de l'usage. Elle est même parfois dépassée. Hein. Des aménagements comme l'aménagement de la place de la Bastille, qui est sorti, me semble, un peu avant le confinement. Donc, le réaménagement de la place de la Bastille avec la double piste cyclable qui fait le tour de la statue, à la sortie du confinement, il était déjà saturé. Donc on voit que finalement, les politiques, elles viennent accompagner la croissance de l'usage. Et oui, à Paris, il a quand même... Il s'observe vraiment, et ça s'observe aussi dans la diversité croissante des usagers. On a plus de femmes qui font du vélo, on en voit de plus en plus sur les pistes, et on voit de plus en plus d'enfants et d'adolescents, notamment avec leurs parents. Et ça montre qu'il y a vraiment un développement de la pratique vraiment intéressant.
Il y a le Vélib aussi. Ce système aujourd'hui se révèle un petit peu défaillant, notamment depuis sa mise en place en 2018, nouvelle version. Aujourd'hui, le syndicat Vélib Métropole, qui gère le système Vélib à l'échelle de la région parisienne, envisage d'imposer des pénalités à son prestataire Smovengo, car, je cite, le service délivré n'est pas au niveau attendu. Toi, en tant que chercheuse, comment tu expliques ce fiasco? C'est un fiasco?
Il me semble que le système est quand même toujours très bien utilisé. Après, c'est un fiasco au terme technique, où effectivement, il y a énormément de défaillances, et je crois que ça a été un gouffre financier pour le syndicat Vélib Métropole. Pour moi, l'explication de ce que j'ai pu observer, c'est principalement le changement de prestataire, puisque... un an plus tard, on avait le même renouvellement de contrat, de contrat avec le service de vélo en libre-service lyonnais, qui, lui, n'a pas changé de prestataire, c'est reste JC Deco, qui s'est fait très, très bien. Et eux aussi ont ajouté des vélos électriques dans leur flotte, et pourtant, ça s'est fait en une nuit. Alors, ils ont beaucoup communiqué là-dessus, ça s'est fait de façon très fluide, très, très bien. À Paris, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont changé de prestataire, un prestataire qui, je pense, venait de remporter son premier gros contrat avec un très gros service et qui n'a pas été capable de suivre techniquement la mise en place de ce service.
Toutes les métropoles, toutes les villes ont un système de vélo libre-service. Et pourtant, comme tu le dis, c'est un système qui coûte très cher.
Oui. Alors, en France, il me semble que oui, quasiment toutes les grandes villes ont un système de vélo en libre-service. Quand Lyon l'a mis en place, donc en 2005, après Paris a fait la même chose 2 ans plus tard, il s'est quand même un peu répandu dans toutes les villes. C'était un peu le service à avoir. Et dans pas mal de villes moyennes, et il y en a beaucoup qui sont revenus là-dessus parce qu'elles se sont rendues compte qu'en fait, c'était un service qui n'était pas du tout adapté à leur territoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plusieurs chercheurs ont montré que le vélo en libre-service, c'était très bien, ça marchait très bien dans les villes qui avaient déjà un très bon réseau de transport public, puisqu'il venait vraiment en complément du réseau de transport public. Ce qui n'est pas toujours le cas des villes moyennes, où on est plus sur un système qui se base sur la voiture, sur la marche, et où ces villes, des villes moyennes qui sont revenues du vélo en libre-service, ont plutôt développé de la location longue durée, par exemple. Et là, on voit que la location longue durée, ça ne sert pas les mêmes usages, hein, on est plutôt sur un vélo presque monomodal, mais là, ça marche beaucoup mieux. Donc oui, ça coûte très cher et on voit bien aujourd'hui que finalement il y a d'autres services qui servent d'autres types d'usages et qui peuvent être beaucoup plus intéressants pour les petites et moyennes collectivités.
Ça reste pas simple de mettre en place une politique donc pour promouvoir le vélo. Et justement, je me posais la question, comment tu vois le développement du vélo dans les années à venir ? Est-ce qu'il y a des projections ? Est-ce qu'il y a des études ?
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un potentiel pour vélo qui est important. Ça a été montré depuis plusieurs années. Hein, le fait que, notamment sur ce que je disais tout à l'heure, sur les déplacements courts, ça peut être une vraie alternative à l'automobile. Et donc, il y a un potentiel du vélo comme mode de déplacement très important. Ce qu'on voit pour autant, c'est que les pratiques de mobilité, ce sont des pratiques qui changent, mais très lentement. Une fois qu'on a pris des routines dans la manière de se déplacer, changer de mode de déplacement, ça peut être très compliqué. Donc, le vélo a du potentiel. À mon avis, ça va prendre du temps avant que ça devienne un mode de déplacement qui soit moins marginal, finalement, en tout cas dans les pratiques de mobilité en France. Et pour le coup, les politiques, là, elles ont vraiment un rôle à jouer puisque c'est aussi elles qui contribuent à façonner le système de mobilité. Et donc, c'est elles qui peuvent aussi montrer que c'est une solution viable, soit en mode seul, soit aussi en mode complémentaire avec le réseau de transport public, avec la marche, même presque avec l'automobile sur certains trajets.
Alors, tu as mis 5 ans pour réaliser cette thèse. C'est un temps important. Comment on en ressort de cette aventure ?
On va dire épuisée, soulagée, contente aussi. C'est vrai que ça a été 5 ans. Alors, en plus, compliqué, puisque finalement, mes dernières années, c'était en pleine crise du Covid, et c'est pas une période facile pour les doctorants. Alors, c'est une période facile pour personne, mais je vous assure que quand on est seul face à son manuscrit chez soi enfermé, c'est vraiment très très dur. Pour autant, les derniers mois ont été compliqués, puisque la rédaction d'une thèse, c'est pas évident, aujourd'hui, j'en suis vraiment contente et je recommence. Il y a peut-être eu un moment où j'ai fait un peu un rejet du vélo. Là, ça va, je me dis que c'est bon, je peux recommencer à travailler sur ce sujet-là qui finalement a plein de potentiel et il reste très très intéressant.
Oui, c'est ça. Quelle suite tu vas donner à ton travail ? Donc, tu poursuis dans le domaine du vélo ?
Alors, pas que du vélo. Là, donc, je travaille en tant que sur un contrat postdoctoral au laboratoire Ville Mobilité Transport, un laboratoire de l'École des Ponts et de l'Université Gustave Eiffel. Et dans ce contrat de postdoc, je travaille sur d'autres modes de déplacement. Je travaille toujours sur les politiques de mobilité, puisque c'est ça qui m'intéresse particulièrement, notamment comment les politiques de mobilité façonnent l'espace urbain et aussi façonnent les pratiques de mobilité. Et donc là, je travaille sur ce projet de pistes cyclables temporaires, mais aussi sur des projets liés aux véhicules autonomes ou à ce qu'on appelle le mobility as a service, les applications de mobilité qui tentent de regrouper l'ensemble des modes de déplacement sur une application.
Bah, tu viendras nous en reparler.
Avec grand plaisir.
Ben voilà, chers auditeurs et auditrices, vous en savez donc beaucoup plus maintenant sur le vélo en ville, sur la pratique et les politiques menées. Merci beaucoup, Manon, pour tout ce que tu nous as raconté. C'était passionnant. Bonne continuation à toi.
Merci beaucoup, Jean, et puis au plaisir de revenir.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet donc, du jour, je mettrai des informations sur le site de l'agence Plus d'idées. Il y aura notamment les précieux conseils de lecture de Manon. Je vous invite à écouter les autres épisodes de Nouveaux Territoires. Abonnez-vous à la page Facebook de Nouveaux Territoires et au compte Twitter pour suivre l'actualité du podcast. Et petite nouveauté, Nouveaux Territoires est présent maintenant sur Instagram. Je vous encourage à y faire un petit tour. Vous pouvez aussi m'écrire à bonjour@agence-plus-d'idées.com pour me proposer des sujets si vous êtes en train de réaliser une thèse. Un grand merci aux équipes de Radio.Style, en particulier à Sandrine Dominguez et Géraldine Le Guenec, et à Alice Dubé qui m'accompagne pour la production et la diffusion du podcast de Nouveaux Territoires. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous.